Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans l'univers des blessures sportives.
Wow.
Et plus précisément, celles qui touchent la cheville et le pied.
Exactement. Un sujet qui nous concerne tous, sportifs ou non.
Tout à fait. Pour ce deep dive, on se base sur un article passionnant.
Oh, j'ai hâte d'entendre ça.
De blessuresdextorsportives.com, intitulé « Cheville et pied en détail ».
Ah oui, je connais bien cet article, il est très complet.
On va décortiquer ensemble les points clés de cet article et explorer les dernières avancées thérapeutiques.
Super. On va pouvoir aller au-delà des généralités et vraiment comprendre les mécanismes de ces blessures.
Exactement. On va parler laser, onde de choc et même percuteur de précision.
Ah oui, la technologie a fait d'énormes progrès dans ce domaine.
Préparez-vous à être surpris. Mais avant de plonger dans le vif du sujet.
Oui, allons-y étape par étape.
Rappelons-nous l'importance de la cheville et du pied dans le mouvement.
Ah oui, c'est la base. Sans eux, impossible de marcher, courir, sauter.
Mais pourquoi sont-ils si vulnérables aux blessures?
Leur anatomie complexe les rend plus fragiles face aux contraintes. Imaginez, chaque pas sollicite plus de 20 muscles et 30 articulations.
Waouh, c'est impressionnant.
Cette complexité est fascinante.
Oui, c'est vrai.
Mais elle rend la zone plus sensible aux mouvements répétitifs, aux impacts, aux changements de direction.
Et bien sûr, l'âge, le type de sport pratiqué, la morphologie du pied.
Tout cela joue un rôle.
Passons maintenant aux blessures les plus fréquentes. Commençons par la tendinite d'Achille.
Ah, un grand classique.
Pourrais-tu nous expliquer ce que c'est?
La tendinite d'Achille, c'est une inflammation du tendon qui relie le muscle du mollet au talon. Un peu comme une corde qu'on sollicite trop souvent, elle finit par s'user et s'irriter.
Je vois l'image. Et cette surutilisation, elle est due à quoi?
Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. L'excès d'entraînement, bien sûr.
Surtout si on augmente l'intensité trop vite.
Exactement. Mais aussi un mauvais alignement biomécanique, des chaussures inadaptées, une faiblesse musculaire.
Ok, donc plusieurs causes possibles. Et comment on sait qu'on a une tendinite d'Achille? Quels sont les symptômes?
La douleur est le principal symptôme.
Oui, je m'en doute.
Elle se situe au niveau du tendon, juste au-dessus du talon, et est souvent plus intense le matin ou après un effort.
On peut aussi avoir une raideur, un gonflement de la zone.
Tout à fait.
Ah, ça n'a pas l'air agréable du tout. Heureusement, il existe des traitements pour ça.
Absolument. Et c'est là que ça devient intéressant.
Ah oui, dis-nous en plus.
L'article met en avant des technologies de pointe, comme la thérapie laser et les ondes de choc. Ces techniques agissent en profondeur pour stimuler la régénération des tissus et réduire l'inflammation.
Attends, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces techniques. La thérapie laser, par exemple, comment ça marche?
Figurez-vous que le laser utilise des ondes lumineuses spécifiques pour pénétrer les tissus en profondeur.
Ah d'accord, c'est pas juste un petit rayon qui répare le tendon.
Non, c'est plus subtil que ça. Cette énergie lumineuse stimule les cellules du tendon, ce qui accélère la guérison.
Donc on donne un coup de pouce au tendon pour se régénérer.
Exactement. C'est une technique très efficace.
Fascinant. Et les ondes de choc, c'est le même principe?
Pas tout à fait. Les ondes de choc sont des impulsions acoustiques qui créent une micro-vibration dans les tissus.
D'accord.
Ce processus stimule la circulation sanguine, la production de collagène et aide à la réparation des tissus.
Deux techniques différentes, mais un même objectif. Aider le tendon à se réparer.
C'est ça.
L'article parle aussi de la thérapie manuelle avec un percuteur de précision. Qu'est-ce que c'est?
C'est un outil qui cible des points précis du corps avec des vibrations rapides et contrôlées.
Un peu comme un massage high-tech.
Exactement. Un massage très précis qui agit en profondeur sur les tissus.
On imagine bien l'intérêt pour le tendon d'Achille.
Absolument. On peut relâcher les tensions musculaires, améliorer la circulation et stimuler la guérison.
Et en plus de ces technologies, on n'oublie pas l'approche naturopathique.
Ah oui, c'est essentiel.
J'imagine qu'une alimentation adaptée et des compléments alimentaires peuvent aussi aider.
Bien sûr. L'article insiste sur une approche globale qui prend en compte la nutrition, le stress, le bien-être général.
Par exemple,
les oméga-3 et la curcumine ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager la douleur et accélérer la guérison.
Donc, on combine les technologies de pointe, la thérapie manuelle et l'approche holistique.
Exactement. C'est la synergie des approches qui permet une guérison optimale.
On ne se contente plus de traiter le symptôme. On agit sur tous les fronts.
C'est ça.
On a beaucoup parlé de la tendinite d'Achille, mais il existe d'autres blessures courantes du pied.
Ah oui, bien sûr.
Passons maintenant à la phagite plantaire.
Ah oui, la fameuse.
Ce nom me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est.
La phagite plantaire, c'est une inflammation du fascia plantaire, cette bande de tissu fibreux sous le pied.
Du talon aux orteils, c'est ça?
Exactement. Elle soutient la voûte plantaire et absorbe les chocs.
mais quand elle est trop sollicitée.
Elle s'enflamme et provoque une douleur intense au niveau du talon.
D'accord. Et cette douleur, elle est comparable à celle de la tendinite d'Achille?
Pas tout à fait. La douleur de la fascite plantaire est souvent plus intense le matin au réveil ou après une période d'inactivité.
Ah oui, je vois.
Elle peut aussi être aggravée par la marche, la course à pied ou la station debout prolongée.
Et qu'est-ce qui cause cette inflammation?
Encore une fois, plusieurs facteurs. On retrouve les suspects habituels.
Oui, mauvaise posture, chaussures inadaptées, excès de poids, activité physique à corse.
Certains sports comme la course à pied ou le tennis peuvent aussi l'aggraver.
Exactement. On comprend mieux pourquoi on l'appelle le mal du coureur.
Et pour les traitements, c'est similaire à la tendinite d'Achille.
En partie, oui. La thérapie laser et les ondes de choc sont aussi très efficaces pour la fascite plantaire.
Elles aident à réduire l'inflammation, stimuler la circulation, favoriser la régénération.
Tout à fait.
Et la thérapie manuelle.
Absolument. Un ostéopathe ou un kinésithérapeute peut utiliser des techniques spécifiques pour détendre les muscles du pied, relâcher les tensions du fascia et améliorer la mobilité de la cheville.
On retrouve encore cette approche multidisciplinaire.
Exactement. C'est la clé pour une récupération optimale.
Technologie, thérapie manuelle, conseil naturopathique.
On agit sur tous les fronts.
Et surtout, on ne néglige pas la douleur.
Ah non, surtout pas.
On consulte un professionnel dès les premiers symptômes.
Plus on intervient tôt, mieux c'est.
Bon, on a parlé tendinite d'Achille, fascite plantaire, passant à une blessure que tout le monde connaît. L'entorse de la cheville.
Ah oui, un grand classique.
Pourrais-tu nous rappeler ce qu'est une entorse, exactement?
Une entorse, c'est une lésion des ligaments de la cheville qui survient lorsque le pied se tord ou se tourne de manière excessive.
Les ligaments, ce sont ces bandes de tissu fibreux qui relient les os entre eux.
Exactement. Ils assurent la stabilité de l'articulation. Lors d'une entorse, ils sont étirés ou déchirés.
Ce qui provoque une douleur intense, un gonflement, une difficulté à marcher.
Tout à fait.
La gravité de l'entorse dépend de l'étendue de la lésion ligamentaire.
Oui, on distingue trois grades d'entorse.
L'entorse bénigne, l'entorse moyenne et l'entorse grave.
C'est ça, de l'étirement simple à la rupture complète du ligament.
Et comment on soigne une entorse? On met de la glace, on se repose et on attend que ça passe.
C'est la première étape, oui. Le protocole RIS est essentiel. Repos, glace, compression, élévation.
Ça permet de limiter l'inflammation et la douleur.
Exactement.
Mais en fonction de la gravité, d'autres traitements peuvent être nécessaires.
Bien sûr.
L'article mentionne l'ostéopathie et la thérapie manuelle avec un percuteur de précision.
Deux approches très complémentaires.
En quoi peuvent-elles aider à soigner une entorse?
L'ostéopathe va travailler sur la globalité du corps pour rétablir l'équilibre et la mobilité des articulations. Il va s'assurer que la cheville retrouve sa bonne position et que les tensions musculaires soient relâchées.
Et le percuteur de précision.
Il stimule la cicatrisation des ligaments en profondeur. Les vibrations améliorent la circulation sanguine, ce qui favorise la réparation des tissus.
On peut aussi réduire les adhérences et les cicatrices qui se forment après une entorse.
Exactement.
C'est incroyable de voir comment la technologie peut aider à la guérison.
Oui, c'est vraiment impressionnant.
Et la thérapie laser, on l'utilise aussi pour les entorses.
Bien sûr. Elle est très efficace pour réduire l'inflammation et accélérer la cicatrisation.
On retrouve encore cette combinaison gagnante. Ostéopathie, thérapie manuelle, technologie de pointe et bien sûr, les conseils naturopathiques.
C'est l'approche globale qui garantit une récupération optimale.
On a vu la tendinite d'Achille, la fascite plantaire, l'entorse de la cheville. Mais l'article mentionne d'autres blessures moins connues.
Ah oui, il y en a plein.
Comme le syndrome des extenseurs ou fléchisseurs du pied. De quoi s'agit-il?
C'est une inflammation des tendons qui contrôle les mouvements des orteils et du pied.
Ah d'accord.
On les sollicite beaucoup lorsqu'on marche, court ou pratique certains sports, comme la danse ou le football.
Et quels sont les symptômes de ce syndrome?
La douleur est le symptôme principal. Elle se situe généralement le long du tendon, sur le dessus ou le dessous du pied.
On peut aussi avoir une raideur, un gonflement et une difficulté à bouger les orteils.
Oui, c'est possible.
Et quelles sont les solutions pour soigner ce syndrome?
Les ondes de choc et la thérapie manuelle sont des options efficaces.
Elles permettent de réduire l'inflammation, relâcher les tensions, restaurer la mobilité.
Exactement.
Et bien sûr, l'approche naturopathique peut aider à soulager la douleur et favoriser la guérison.
N'oublions pas l'importance d'une alimentation adaptée et de techniques de relaxation.
On a vu un large éventail de blessures et on comprend l'importance d'une approche globale pour les soigner. Mais avant de passer à la suite...
Oui.
Y a-t-il un point important qu'on aurait oublié de mentionner sur le traitement de ces blessures?
Oui, il ne faut surtout pas oublier la prévention.
Ah oui, c'est vrai. L'article insiste sur l'importance de prendre soin de ses pieds et de ses chevilles au quotidien.
C'est primordial.
Tu parlais d'échauffement, d'étirement, de choix de chaussures adaptées.
Exactement. Un bon échauffement avant l'effort prépare les muscles et les tendons. Les étirements maintiennent la souplesse et la mobilité.
Et bien sûr, le choix de chaussures adaptées est primordial pour éviter les traumatismes.
Absolument.
Donc, en plus de soigner les blessures, il faut agir en amont pour les éviter.
C'est le message clé.
Un message important pour tous les sportifs, quel que soit leur niveau.
La prévention est le meilleur remède.
On a couvert pas mal de terrain dans cette première partie. On a vu les blessures les plus courantes, les traitements les plus efficaces et l'importance de la prévention.
Oui, on a fait un bon tour d'horizon.
Mais il nous reste encore beaucoup de choses à explorer.
Ah oui, c'est certain.
Dans la deuxième partie, on va se pencher sur les dernières innovations technologiques qui révolutionnent la prise en charge des blessures sportives. On parlera de capteurs biométriques, de dispositifs de pointe et des perspectives futuristes.
J'ai hâte. Ça promet d'être passionnant.
Alors restez avec nous, la suite s'annonce captivante.
À tout de suite. Dans la première partie, on a vu l'importance d'une approche globale.
Oui, on a bien exploré ça.
Pour soigner les blessures de la cheville et du pied.
Exactement. On a vu les traitements classiques, la thérapie manuelle, l'approche naturopathique.
Tout à fait. Mais comment aller encore plus loin? Comment personnaliser encore davantage les traitements?
Eh bien, c'est là que la technologie entre en jeu.
Ah oui, la technologie. On entre dans le futur de la médecine sportive.
Préparez-vous, on va parler de dispositifs de pointe, d'innovation qui révolutionne la prise en charge des sportifs.
Des exemples concrets. J'ai hâte d'entendre ça.
Prenons les thérapies au laser et par ondes de choc.
Ah oui, on en a parlé tout à l'heure.
Les appareils de nouvelle génération sont de plus en plus sophistiqués.
C'est vrai, ils sont incroyables.
On peut ajuster les paramètres du traitement en fonction de la blessure, de la morphologie du patient.
Et même de sa réponse individuelle au traitement.
Exactement. On adapte le traitement à chaque patient.
C'est de la haute couture pour la médecine sportive.
J'adore cette image. Et en plus du laser et des ondes de choc, l'article parle des capteurs biométriques.
Ah oui, les capteurs. Une vraie révolution.
Dis-moi, ces capteurs, ils servent à quoi exactement?
Imaginez des capteurs intégrés aux vêtements, aux chaussures.
Ou même sur la peau du patient.
Exactement. Ils permettent de suivre en temps réel plein de paramètres. La posture, la force exercée, l'amplitude des mouvements.
Attends, je vois le tableau. Le patient porte un vêtement avec des capteurs et on voit toutes ces données s'afficher sur un écran.
C'est ça, des données précieuses pour les professionnels de santé.
Oui, je comprends.
On comprend comment le patient bouge, on identifie les mouvements qui posent problème.
Et on adapte le programme de rééducation en conséquence.
C'est un outil d'analyse très précis.
Mais est-ce que ces données permettent aussi de prévenir les blessures?
C'est là que ça devient vraiment intéressant. On peut utiliser ces capteurs en amont.
Ah oui, c'est génial.
Pour identifier les facteurs de risque et mettre en place des mesures préventives.
Par exemple?
Si on détecte une faiblesse musculaire, ou un déséquilibre postural.
On peut proposer des exercices spécifiques pour corriger le problème avant qu'il ne devienne une blessure.
Exactement.
On passe d'une approche curative à une approche préventive.
C'est l'un des grands défis de la médecine du sport de demain. Anticiper les blessures et les éviter.
C'est passionnant, toutes ces innovations. Mais j'imagine que ce n'est pas toujours simple de les mettre en place.
Non, bien sûr.
Quels sont les défis auxquels la médecine sportive est confrontée?
Il y en a plusieurs. D'abord, l'accès à la technologie. Tous les centres sportifs n'ont pas les moyens d'investir dans des équipements de pointe. Ensuite, la formation des professionnels de santé. Il faut les former à l'utilisation de ces nouvelles technologies.
Oui, bien sûr. Il faut savoir interpréter les données, utiliser les appareils correctement.
Exactement. C'est un nouveau savoir-faire à acquérir.
Et puis, il y a le défi de l'intégration des données.
Ah oui, c'est un point important. On collecte de plus en plus d'informations.
Mais il faut les analyser, les partager, les utiliser efficacement.
C'est un défi technique et organisationnel.
La technologie, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment.
C'est ça.
Et du côté des patients, est-ce qu'il y a des réticences?
Il peut y avoir des craintes, oui. Certains sont réticents à l'idée de porter des capteurs, de partager leurs données.
Se faire soigner par des machines, ça peut faire peur.
Oui, c'est normal. Il faut les rassurer, leur expliquer le fonctionnement de ces technologies.
Montrer les bénéfices qu'ils peuvent en tirer.
La communication est essentielle.
Et au final, est-ce que ces technologies sont réservées aux athlètes de haut niveau?
L'objectif, c'est de les démocratiser.
Ah oui, c'est important.
Bien sûr, les athlètes de haut niveau sont les premiers à en bénéficier.
Les enjeux sont plus importants pour eux.
Mais de plus en plus de centres sportifs et de cabinets médicaux s'équipent.
Ce qui permet au grand public
d'y avoir accès aussi.
C'est une excellente nouvelle.
La technologie joue un rôle de plus en plus important dans la médecine sportive.
C'est indéniable.
Mais au-delà des aspects techniques,
oui.
Est-ce que ces innovations ont un impact sur la relation soignant-patient?
C'est une question fondamentale. La technologie ne doit pas remplacer le contact humain.
C'est rassurant.
Le rôle du soignant reste essentiel.
Bien sûr.
Il doit écouter le patient, comprendre ses besoins, l'accompagner.
La technologie est un outil, un complément.
Mais elle ne peut pas se substituer à la relation humaine.
On n'a pas envie de se retrouver face à un robot médecin.
Non, rassurez-vous. L'expertise humaine, le jugement clinique, l'empathie. Tout cela reste indispensable.
La technologie est là pour nous aider, pour nous donner plus d'informations.
Pour personnaliser les traitements.
Mais elle ne remplacera jamais le rôle du soignant.
Exactement.
On a besoin de la technologie et du contact humain pour une prise en charge optimale.
C'est un équilibre à trouver.
On a beaucoup parlé de progrès, d'innovation. Mais est-ce que ces avancées technologiques soulèvent aussi des questions éthiques?
Oui, bien sûr. Toute nouvelle technologie soulève des questions éthiques.
Il faut réfléchir à l'utilisation des données, à la confidentialité, au risque de discrimination.
C'est un débat essentiel à avoir.
Imaginez les assureurs ou les employeurs qui veulent accéder aux données biométriques des individus.
Pour évaluer leur risque de blessure ou leur performance physique.
C'est un risque réel.
Il faut mettre en place des garde-fous pour éviter les dérives.
La protection de la vie privée, la confidentialité des données, le consentement éclairé.
Tout cela doit être absolument respecté.
La technologie, c'est une super opportunité.
Oui, c'est vrai.
Mais il faut l'utiliser de manière responsable et éthique.
La technologie doit être au service de l'humain et non l'inverse.
On a parlé de technologie de pointe, de capteurs, de questions éthiques. La médecine sportive est en pleine mutation.
C'est passionnant.
Et ce n'est que le début. On n'a pas fini d'être surpris par les innovations à venir.
J'en suis convaincu. Dans la troisième partie, on explorera les perspectives d'avenir de la médecine sportive.
On parlera de recherche, de nouvelles thérapies, de solutions futuristes.
Restez avec nous, la suite promet d'être encore plus passionnante.
La médecine du sport est en pleine révolution. On a parlé de technologies de pointe, de capteurs biométriques, d'intelligence artificielle.
Oui, et ce n'est que le début. La recherche avance à grands pas.
Justement, parlons des nouvelles thérapies qui se profilent à l'horizon. L'article évoque des pistes fascinantes, comme la thérapie génique ou l'utilisation de cellules souches.
Ces thérapies ouvrent des perspectives extraordinaires. Imaginez régénérer un cartilage endommagé grâce à des cellules souches.
Ou réparer un tendon déchiré grâce à la thérapie génique. C'est de la science-fiction.
Presque. Mais attention, ces thérapies sont encore expérimentales. Il reste du chemin à parcourir avant qu'elles ne soient accessibles à tous.
Oui, la recherche prend du temps. Mais rien que l'idée de guérir des blessures autrefois incurables, c'est incroyable.
Absolument. Et en plus de ces thérapies futuristes, il y a l'essor de la médecine personnalisée et prédictive.
Ah oui, grâce aux données biométriques.
Exactement. On peut créer des programmes d'entraînement et de prévention sur mesure, adaptés aux besoins et aux risques de chaque individu.
C'est l'idée de personnaliser l'approche, d'aller au-delà des protocoles standardisés.
Tout à fait. On peut imaginer un futur où chaque sportif aura un suivi personnalisé basé sur l'analyse de ses données.
On optimisera ses performances, tout en minimisant les risques de blessures.
C'est l'objectif.
On se dirige vers une médecine du sport plus précise, plus efficace et plus centrée sur le patient.
C'est une évolution positive.
Mais est-ce que tout le monde pourra bénéficier de ces avancées? Ou seront-elles réservées à une élite?
C'est une question cruciale. Il faut veiller à ce que ces innovations ne creusent pas les inégalités. L'accès aux soins doit être équitable.
Les bénéfices de la médecine du sport doivent profiter à tous.
Absolument.
Et au-delà de l'accès aux soins, est-ce que ces avancées technologiques soulèvent d'autres questions éthiques?
Oui, bien sûr. La protection des données est un enjeu majeur.
Il faut garantir la confidentialité des informations médicales.
Et éviter toute utilisation abusive. Par exemple, on peut imaginer des assureurs ou des employeurs qui voudraient accéder aux données des sportifs.
Pour évaluer le risque de blessure ou leur performance.
Exactement. Il faut un cadre légal et éthique clair pour encadrer l'utilisation de ces données et protéger les droits des individus.
La technologie, c'est un outil puissant, mais il faut l'utiliser avec sagesse et responsabilité.
Tout à fait.
Et vois-tu d'autres défis pour la médecine du sport de demain?
Oui, la formation des professionnels de santé à ces nouvelles technologies sera un défi majeur.
Il faudra de nouveaux cursus, de nouvelles compétences.
Pour que les médecins, les kinésithérapeutes, les ostéopathes puissent intégrer ces innovations dans leur pratique.
Quel est le message le plus important à retenir de ce deep dive?
L'importance de l'approche globale.
On ne peut plus se contenter de traiter le symptôme. Il faut prendre en compte l'individu dans sa globalité. Son corps, son mental, son environnement, ses objectifs.
Une médecine plus humaine, plus personnalisée, plus préventive.
Exactement. La médecine du sport est en pleine mutation et les prochaines années s'annoncent passionnantes.
On peut espérer des progrès considérables pour les sportifs.
Tout en préservant leur santé.
Merci pour toutes ces informations passionnantes. On a effleuré la surface du sujet, mais on a appris beaucoup de choses.
J'espère que ce deep dive vous a donné un aperçu des enjeux et des perspectives de la médecine du sport.
Moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Merci encore d'avoir partagé ton expertise avec nous.
Avec plaisir.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration. N'hésitez pas à partager vos réactions en ligne. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive.